J'ai le privilège d'échanger avec Eric plusieurs fois par semaine sur toutes sortes de choses. Et pourtant, on ne s'est pas concordé pour ce culte. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, on échange beaucoup plus sur le culte, mais cette fois-ci, on n'a rien fait, on n'a rien dit. Mais ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que aujourd'hui, c'est vrai, c'est la fin du week-end de l'Ascension. Dans le temps, à l'Ascension, les chrétiens de notre association, de notre dénomination, se réunissaient à Limoges sous un chapiteau. Et il y avait beaucoup plus de sensibilité à cette fête de l'Ascension. Aujourd'hui, c'est un peu perdu, on dirait, voilà, comme a dit Eric, voilà, bon, c'est l'Ascension, et puis on part en week-end, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on dit c'est Jésus de l'Ascension, et puis on passe à autre chose. S'il n'y a pas l'Ascension, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici s'il n'y a pas l'Ascension? L'Évangile, c'est la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ et son retour. Et il y a retour parce qu'il est parti. Il y a eu départ. S'il n'y a pas de départ, ben, il n'y a pas de retour. Les apôtres ont toujours insisté sur ça. Je me souviens que Philippe Hubinon disait souvent que l'ancien pasteur qui l'a remplacé disait « Tu ne peux pas prêcher l'Évangile uniquement avec la croix de Jésus-Christ, avec la mort de Jésus-Christ. Il y a autre chose. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est ressuscité. Et il revient. Homme galiléen, qu'est-ce que vous faites là, baillé aux corneilles? Homme galiléen, ce Jésus que vous avez vu s'élever au ciel, il reviendra de la même manière. » Oui, c'est ça l'Évangile. Jésus s'est élevé au ciel et il reviendra de la même manière. Lisons quelques versets dans 2 Pierre, chapitre 3. Je vais lire quelques versets et je vais vous les indiquer et puis, parce que je ne vais pas lire tout le passage. 2 Pierre 3. Versets 1 à 4 et puis 11 à 12. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des moqueurs viendront et vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi au ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Et puis au verset 11, « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener ? » C'était un peu le sujet aussi que Eric nous a amené. « Quelle vie sainte vous devez mener ? Et combien vous devez être attaché à Dieu ? En attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. » En attend sa venue, en accélérant sa venue. Il s'agit bien de hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, j'ai sauté un passage. Ce que je voudrais que nous voyions tous ensemble ce matin, c'est que nous sommes appelés à hâter le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ma tablette me joue des tours. Nous sommes appelés à assumer notre rôle de chrétien pour hâter le retour du Christ. Le retour du Christ s'appelle dans le jargon technique la parousie, l'événement. La parousie signifie une entrée en gloire, une célébration. Les rois de Belgique, quand ils sont nommés, font leur joyeuse entrée. Dans le quartier du Schumann, il y a l'avenue de la joyeuse entrée. C'est le même mot, la parousie. Et le roi Philippe a fait ça dans plusieurs villes de Belgique. Une joyeuse entrée. Jésus va faire sa joyeuse entrée dans le monde. C'est ce que l'enseignement de la Bible nous dit carrément. En gloire. Une venue glorieuse que les chrétiens attendent depuis 2000 ans. Vous savez que les témoins de Jéhovah disent qu'il est venu en 1914 ? Et puis ils ont un peu transformé. Ils ont dit oui, mais il est venu virtuellement, pas physiquement. Pourtant, Apocalypse 1:7 nous dit « Voici, il vient avec les nuées, comme les anges ont dit aux apôtres. Hein. Il revient dans les nuées. Hein. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Quand Jésus reviendra, tout œil le verra. Pendant des millénaires, les chrétiens se sont demandé comment est-ce possible que tout le monde va voir Jésus en même temps. Nous sommes la génération qui a le privilège de savoir pourquoi. Dans quelques semaines ou mois, je ne sais pas, il y aura la Coupe du Monde de football. Il y aura à peu près 4 milliards de gens qui regarderont la finale. La moitié de la population du monde. Tout le monde regardera cette finale. Et vous ne voulez pas que tout le monde voit Jésus lors de son retour ? Ce n'était pas possible avant. Aujourd'hui, c'est possible. On a bien rigolé de la parole de Dieu, n'est-ce pas, en disant « Mais qu'est-ce que c'est ces bêtises que tout le monde va le voir ?» Ben oui, bon. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et un jour, tout le monde le verra. Jésus l'a répété de nombreuses fois. Je ne vais pas tout citer, mais en Jean 14, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Jésus dit qu'il reviendra. Les deux anges l'ont annoncé à l'ascension, il va revenir. L'apôtre Paul n'arrête pas de parler de la résurrection de Jésus-Christ et de son retour. Les épîtres sont remplies de ce concept. Et toi, est-ce que tu crois que Jésus va revenir ? Si tu crois à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu dois croire que Jésus va revenir, hein ? C'est un sujet qui est passé de mode dans les chrétiens. Demandez à vos amis qui se disent chrétiens, s'ils pensent que Jésus va revenir, ils vont rester indécis. Parce que cet enseignement est en train de disparaître. On va voir pourquoi il disparaît. Christ s'est offert une fois pour toutes pour porter les péchés de plusieurs, et il apparaîtra sans péché une seconde fois. Lorsqu'il apparaîtra, il va juger. Et il va juger quoi ? Le péché. Et comme on n'aime pas parler de péché aujourd'hui, on préfère ne pas parler de retour de Jésus-Christ. Alors, attention, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, hein. Ne tombons pas dans le piège de commencer à spéculer. On a eu une personne dans notre église à Woluwe qui me remplissait la tête comme ça avec des calculs du retour de Jésus-Christ. Il était vraiment convaincu, hein, qu'il avait des preuves de la... Pas du jour, non, bien sûr, pas du jour, mais de la date un peu approximative du retour de Jésus-Christ. Les anciens ont essayé de le raisonner en lui disant « Mais oui, Jésus revient, mais ne perds pas ton temps à faire des équilibrations. » Il est parti de l'église. Pourtant, c'était un chouette frère rempli de foi. Et Jésus nous a dit « Mais je vais revenir comme les voleurs, quand vous ne l'attendez pas, comme lors de sa première venue. » Lors de sa première venue aussi, on ne l'attendait pas. D'ailleurs, on n'a pas voulu croire que c'était Jésus. Jésus nous explique, vous connaissez les textes là, il viendra comme un voleur. Et le voleur, il ne vous téléphone pas la veille pour vous dire « je vais venir ». Ben oui, il viendra à l'improviste. Ne perdons pas notre temps à spéculer, mais sachons que le jour du Seigneur est en train d'approcher. Le Seigneur a donné une carte pour dire quand est-ce qu'il va revenir. Et dans cette carte, il est dit, il y aura des faux Christ qui séduiront beaucoup de monde. C'est déjà le cas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de faux Christ, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Il a dit que des guerres éclateront. Ben, c'est déjà le cas, encore actuellement. Il a dit que les famines séviront. Bon, c'est un peu mieux aujourd'hui, mais il y a eu énormément de famines ces dernières décennies. Ceux qui sont plus âgés, qui ont mon âge, se souviennent des famines au Biafra, par exemple. Donc ça a déjà eu lieu, les famines. Il y aura des tremblements de terre. Ah ben oui, on en entend parler presque toutes les semaines, n'est-ce pas, des tremblements de terre. Les croyants seront persécutés. Ben, c'est l'évidence. Hein. J'espère que vous connaissez et que vous soutenez par la prière et par vos dons, porte ouverte. Ils sont venus mardi à l'église. Olivier Erkens est venu présenter l'œuvre et c'est toujours poignant d'entendre ce qui se passe avec les chrétiens persécutés dans le monde. On n'en fait pas assez pour soutenir les chrétiens persécutés. Ben oui, les chrétiens persécutés, c'est une réalité, donc. Beaucoup trahiront la foi. Ben oui, il y en a aussi qui trahissent la foi. Donc tout ce que Jésus avait annoncé est déjà là. Il reste une chose qui n'est pas terminée. Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. C'est la seule chose qui reste pour le retour de Jésus-Christ. Que le monde entier soit évangélisé. Non pas que le monde entier se convertisse, mais que le monde entier entende l'évangile, la mort, la résurrection, le retour de Jésus-Christ. On n'y est pas encore. On estime qu'il y a environ la moitié de la population qui a déjà entendu parler de l'évangile. Et donc c'est le seul objectif qui nous reste à accélérer pour le retour de Jésus-Christ. Mais au rythme où vont les choses, le retour de Jésus-Christ est proche, même si on ne sait pas l'année ou même le siècle. Oui, nous nous approchons de la parousie. Et qu'allons-nous faire alors si on s'approche de la parousie? Quel est notre rôle? Nous l'avons lu dans 2 Pierre. Hein. En attendant que vienne le jour de Dieu, hâtez sa venue. Est-ce que hâter sa venue va faire en sorte que moi je vais décider quand va venir Jésus? Bien sûr que non, c'est lui qui a son calendrier. Et pourtant ce texte nous dit que, allez, vous devez faire quelque chose pour que ça arrive. C'est clair, n'est-ce pas? Vous devez hâter sa venue. Hâter, c'est quelque chose de concret. Ça veut dire que nous sommes appelés en tant que chrétiens à agir pour rapprocher le jour du retour de Jésus-Christ. Il faut que nous servions, que nous veillons, que nous prions pour hâter le retour de Jésus-Christ. Il ne va pas changer la date à cause de nous, hein. Mais il faut que toutes les conditions soient réunies pour que Jésus revienne. Nous allons voir quelques versets avec 8 recommandations. Il y en a beaucoup d'autres. 8 recommandations que les chrétiens devraient suivre pour hâter le retour de Jésus-Christ. Premièrement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de conversion. Matthieu 13, 30, c'est la parabole de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Christ reviendra faire le tri, c'est ça le sens de cette parabole, entre la mauvaise herbe qui va être brûlée et le blé qui va être amassé dans son grenier. Toi, tu vas être avec la mauvaise herbe ou avec le blé? C'est à toi de répondre à cette question. Et toi seul peux répondre à cette question. L'évangile, c'est ça. Se positionner face à ce que, au tri que fera Jésus-Christ. Crois-tu que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi? Il reviendra et il ne faut pas que ça soit trop tard pour toi. On connaît tous, n'est-ce pas, des remises au lendemain qui n'aboutissent pas. Demain, je vais aller voir le médecin, mais ça risque d'être trop tard. Demain, je vais téléphoner à un frère qui est fâché avec moi, et puis on oublie. Demain, je vais me convertir à accepter le Seigneur. Demain, je vais quand même accepter le baptême. Demain. C'est terrible la procrastination qu'il y a chez les êtres humains. Demain. Demain, pour de vrai, demain soir à 20h, il y aura un webinaire que l'association, notre association organise à 20h. Demandez à vos anciens pour qu'ils vous envoient le lien si vous voulez. C'est un webinaire sur la gestion du temps. C'est moi qui le donnerai. La CPA a demandé que je donne ce webinaire pour dire comment on doit gérer notre temps. Pour ne pas toujours dire demain. Bon, ce sera aussi avec une vision biblique, parce que l'objectif, c'est quand même avoir une vie remplie pour le Seigneur. Mais ça sera beaucoup aussi technique pour gérer votre vie de travail, votre vie de couple, votre vie familiale. Donc, si vous voulez, demain soir à 20h, ce webinaire pour bien gérer notre temps. Deuxièmement, Matthieu 16, 27 nous dit que nous allons être pesés. On va être jugés. Le Fils de l'homme viendra, vous voyez que c'est toujours lié avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Le retour de Jésus-Christ rendra à chacun des chrétiens ce que lui ont valu ses actes. Le symbole de la justice, c'est une balance. Et Jésus va, virtuellement, bien entendu, peser notre vie et nos actions. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Le jour du retour du Seigneur, il va juger ce qu'on a fait pour lui. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement, lorsque Jésus viendra, le fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, si vous avez cru en Jésus-Christ, n'ayez pas peur, vous n'allez pas perdre votre salut. Mais ça risque de sentir le roussi. C'est Albert Hénaud, un ancien pasteur à La Louvière, qui disait toujours ça. Ça va sentir le roussi au ciel. Parce que certains vont passer à travers le feu, ils vont se sauver. Merci Seigneur, il a promis qu'il nous sauve. Mais certains vont être sauvés vraiment in extremis, parce qu'ils n'auront apporté rien du tout, Seigneur. Ma mère a toujours élevé des poules. Et quand elle plumait la poule, on ébouillantait dans l'eau, on enlevait toutes les plumes, et il restait toujours un peu de poil. Et alors elle passait le poulet, sur le bec de gaz pour enlever les derniers petits poils. Et ça sentait le roussi. Ça va sentir le roussi au ciel aussi. Pour tous ceux qui n'ont pas été sérieux dans leur engagement. Heureusement, vous serez sauvés. On sera tous sauvés. Mais ça va sentir le roussi. On risque d'arriver au ciel comme les gens que vous avez invités chez vous qui ne vous ont pas apporté un bouquet de fleurs, un ballotin de praline ou une bouteille de vin. Et vous allez voir les autres arriver avec les mains remplies pour le Seigneur. Et vous, vous arrivez les mains dans les poches. Ce verset nous dit carrément, vous allez être sauvés, hein, mais tout juste. Hein. Toute une vie qui risque d'être sans récompense au retour du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, faire le bien. Hâter le retour de Jésus-Christ consiste aussi à faire du bien, à être la lumière. Romains 13, versets 10-12. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Nous sommes dans les derniers temps. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. C'est incroyable, le nombre de versets, on relie toujours le retour de Jésus-Christ avec ce que nous devons faire. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que le jour du Seigneur est plus proche. La nuit tira sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière. Les jours n'ont jamais été aussi sombres qu'aujourd'hui. Éric l'a signalé avec plusieurs exemples, n'est-ce pas? Les ténèbres sont là aujourd'hui, dans Bruxelles et dans le monde. Mais le salut approche. Et puisque le soleil approche, nous devons briller. Vous imaginez la petite bougie dans une toute petite flamme qui éclaire une salle sombre. Il ne faut pas grand-chose, une petite flamme. Et tout de suite, on voit suffisamment clair. C'est ça que nous sommes appelés à être. Si vous voulez hâter le retour du Seigneur, soyez une lumière là où vous êtes. Parce qu'il fait sombre aujourd'hui et que le Seigneur va revenir. Quatrièmement, ne pas murmurer. Si vous voulez hâter le retour du Seigneur, ne murmurez pas. Jacques 5, 9. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères et sœurs, j'ajoute, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge se tient devant la porte. Le retour de Jésus-Christ à la porte nous oblige à ne pas murmurer, ne pas rouspéter sur les autres. Le verbe grec signifie soupirer, gémir, murmurer. Pourquoi faut-il bannir la critique dans l'Église ? Parce que le juge est à la porte, c'est ça que dit le verset. Il va arriver et va te surprendre en train de murmurer. Et puis, vous savez que Matthieu 18 vous explique comment vous devez régler vos comptes. Dans l'amour, en tête à tête, sans murmurer avec les autres. Vous voulez hâter le retour du Seigneur ? Quand tu critiques, rappelle-toi que Jésus est derrière la porte et qu'il entend ce que tu es en train de murmurer. Cinquièmement, Jacques 5, 7, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la parousie du Seigneur. Nous sommes invités à être patients, parce que dans ce monde, on est entouré de tant de difficultés personnelles ou des autres, que nous devons être patients jusqu'au retour du Seigneur. Encore un verset qui allie ce que nous devons faire et le retour du Seigneur. Ta situation personnelle, sentimentale, professionnelle, ta santé, sois patient. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Le Seigneur revient, sois patient. Hébreux 10, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, deux fois, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tarde pas. Combien de fois n'avons-nous pas vu des personnes contrariées parce que leur patience arrive au bout ? Si tu penses que le Seigneur va revenir, continue à être patient. La Bible nous invite à la persévérance parce que Jésus va revenir. Je connais des pasteurs qui ont consacré des heures et des heures et des heures à des personnes qui pompent l'énergie des pasteurs. Dernièrement, j'ai encore eu affaire à une situation pareille. Quelqu'un qui pompe le temps de notre pasteur parce qu'elle veut tout de suite quelque chose. Ce n'est pas biblique. Le pasteur a autre chose à faire que de consacrer tant de temps à la même personne. Il y en a une qui m'a demandé, « Oui, mais est-ce que chez vous, vous faites de la cure d'âme ?» Je dis, il n'y a pas un bureau avec l'étiquette cure d'âme ici. Hein. La cure d'âme, c'est toi avec les autres. Fais quelque chose pour les autres et tu vas voir que tu vas être soulagé. Sixièmement, encore un autre verset qui nous dit qu'on doit veiller dans la prière. Dans la parabole des 10 jeunes filles, on lit en Matthieu 25, comme le marié se faisait attendre, comme Jésus-Christ se fait attendre, hein, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de sa venue. Les temps sont difficiles et il faut rester en éveil, c'est-à-dire en priant. À genoux pour pouvoir être debout quand le Seigneur revient. Septièmement, on approche de la fin. Faites travailler les dons que Dieu vous a donnés. Vous voulez hâter le retour du Seigneur ? Utilisez les dons qu'il vous donne. Luc 12, 35-36. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive, il frappera à la porte et lui ouvre. Mettez-vous en tenue de travail, dit ce texte. Dans le texte, il parle de se ceindre les reins, c'est-à-dire mettre ses vêtements pour pouvoir, en l'entour de la taille, pour pouvoir travailler plus facilement. La grâce ne justifie nullement la paresse. Même ceux qui ont reçu peu doivent faire fructifier le peu qu'ils ont reçu. La parabole des talents invite tout le monde, même ceux qui n'ont pas beaucoup de capacité, à servir le maître du royaume. Quand Jésus est parti, on l'a vu, il a fallu deux anges pour dire aux gens, « Hé, là, restez pas à bailler aux corneilles. Et vous aussi, vous ne devez pas rester passif en attendant le retour du Seigneur. Au boulot. Le Seigneur vous a donné des dons. Mettez-vous en tenue de travail. Pour rater le retour du Seigneur, chaque chrétien a une responsabilité d'utiliser le don qu'il a reçu pour le service du Seigneur. Et dernièrement, sans doute le plus difficile pour rater le retour du Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens 3 qui nous le dit. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient, entendez le mot, hein, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de la parousie. On doit trembler à ce texte. Lors de la parousie, le Seigneur attend que nous soyons irréprochables en sainteté. Jean, dans sa prière, il l'a dit tout à l'heure, il a parlé de sainteté. C'est difficile d'être saint dans un monde pourri, où nous sommes entourés de gens qui se moquent de la sainteté. Pourtant, c'est ce que nous sommes appelés à être. Être saint. Et ça dépend de notre engagement à ne pas suivre aveuglément ce que le monde nous propose. Irréprochable en sainteté. Pardon ?
Avec la discipline.
Ah oui. Nous terminons. Les anges de l'ascension disent aux disciples, ne restez pas là, oisifs. Le Seigneur va revenir, et donc il y a plein de choses à faire. Et vous devez hâter le retour du Seigneur. Si nous sommes des chrétiens qui aimons le Seigneur, faisons notre part pour hâter le retour du Seigneur. Vous savez, la Bible est remplie de conseils comme ça. J'en ai pris 8, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Faites une étude chez vous, vous allez voir chaque fois que le mot du retour engage le chrétien. Si nous voulons mettre fin au malheur dans le monde, à ce monde sombre, ce monde noir, nous devons faire notre part. Il y a un verset que j'aime beaucoup, parce qu'il se rallie un peu à mes activités professionnelles, en matière d'énergie. 1 Thessaloniciens 5, 2, 4. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, on l'a déjà dit, dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous sommes avertis, n'est-ce pas? Le monde, vous le voyez bien, est toujours en train de parler de paix et sécurité. Pourquoi il y a des événements en Iran aujourd'hui? Parce qu'on veut apporter la paix de force. Et c'est partout la même chose. Les Nations Unies ont été créées pour apporter la paix dans le monde. Je crois que la paix va arriver. Parce que la parole dans ce texte nous dit. Lorsque tout le monde dira, voilà, maintenant on est en paix et en sécurité, alors viendra le Seigneur. Ça fait partie du plan de Dieu. La géopolitique du monde n'est pas décidée par Xi Jinping ou Donald Trump. Elle est décidée par Dieu et il a son horloge. Et nous allons vers la paix et la sécurité pour que le Seigneur puisse revenir. Frères et sœurs, permettez-moi de vous répondre de vous demander une dernière question. Si le Seigneur devrait frapper à la porte là, maintenant, en cet instant même, qu'est-ce qu'on fait? On se met à chanter Alléluia, Maranatha? Ou bien on commence à paniquer? Parce qu'on se dit que ça va sentir le roussi à cause de moi. Chacun répond pour lui, n'est-ce pas? Prions. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es parti, mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit qui nous donne la compréhension de ta parole vivante. Merci, Seigneur, parce que la Bible et ton Saint-Esprit éclairent notre chemin dans ce monde de ténèbres. Oui, Seigneur, nous savons que tu es parti, mais que tu reviendras. Nous en sommes convaincus. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être des chrétiens à l'œuvre pour hâter ton retour. Ton horloge, Dieu la connaît. Mais nous savons que nous approchons du temps de la fin, où tout le monde voudra croire que la paix et la sécurité est arrivée. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de la ruine soudaine qui va venir. Parce qu'au moment où les gens crieront paix et sécurité, cette ruine soudaine, c'est ton retour. Et tu mettras fin à ce monde de souffrance. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes la promesse de vivre l'éternité avec toi. Éric nous en a abondamment parlé. Nous allons vivre l'éternité avec toi. Puissions-nous, Seigneur, entrer par la porte avec des cadeaux pleins la main, non pas pour payer notre salut, mais en signe de reconnaissance pour ce que tu fais pour nous. Aide-nous, Seigneur, sur le chemin de la sanctification pour hâter ton retour. Amen.